Voilà, donc moi-même je travaille ici à Necker en immunohémato-rhumatologie pédiatrique et j'anime un centre de référence maladies rares qui en fait est multisite où on a avec nous Robert Debré aussi en versant pédiatrique, Cochin sur la médecine d'adulte avec aussi la maison de Solène avec Hervé Lefebvre qui parlera cet après-midi pour les ados et peut-être bientôt Lyon avec lequel on a beaucoup d'interactions qui rejoindra notre centre de référence. Et on s'occupe de maladies variées. Il y a d'une part les arthrites de l'enfant qui représentent 2/3 de nos patients qui sont en fait très hétérogènes. Parfois associés à des atteintes systémiques en plus de l'atteinte articulaire, des atteintes inflammatoires, des atteintes mécaniques intriquées. Et un problème, comme l'a pointé Marine Desjonquières, qui est tout à fait complexe en termes de douleur et de faire la part de ce qui est strictement organique et de ce qui est de nature plutôt psychologique, qui est ce vaste domaine des spondylarthropathies qu'on appelle dans notre jargon les enthésites en lien avec une arthrite. Pourquoi ? Parce qu'au début, on a souvent à peine de l'arthrite, on a surtout des douleurs au point d'insertion des tendons et c'est très très difficile à analyser. On a des maladies auto-inflammatoires dont je parlerai beaucoup moins, mais enfin, elles donnent des manifestations douloureuses, y compris articulaires, soit par poussées courtes, typiquement la fièvre méditerranéenne familiale, soit sur des poussées longues et difficiles à comprendre, comme ce tableau des ostéomyélites chroniques, dont l'ostéomyélite chronique récurrente multifocale, qui reste une maladie très mystérieuse, et là encore avec une grande difficulté à faire la part de ce qui est organique, de ce qui ne l'est pas, et des chevauchements avec les spondylarthrites. Je ne parlerai pas beaucoup des maladies auto-immunes systémiques dont nous nous occupons, bien qu'on puisse avoir dans le cadre du lupus, de myosite, des douleurs qui soient très problématiques et qui ne sont pas toujours calmées par le traitement spécifique de la maladie. On peut avoir des complications, par exemple des calcinoses qui se développent dans des dermatomyosites ou des choses comme ça qui peuvent vraiment poser des problèmes lourds. On a besoin d'être très multidisciplinaire. Et puis bien sûr, comme l'a dit Marine, comme l'a dit Isabelle, on voit arriver des patients qui ont des tableaux douloureux, pas toujours bien définis de l'appareil locomoteur, où on doit vraiment être attentif, je vous montrerai avec quelques exemples, à essayer de faire la part et là encore se méfier que les choses peuvent dans le temps prendre un caractère un petit peu différent. Donc les arthrites juvéniles, je passe rapidement, en gros, ça montre l'état de notre ignorance, ce sont des enfants qui ont développé une arthrite, un gonflement articulaire, une articulation douloureuse limitée, ça s'est installé dans la durée, on n'a pas trouvé de cause, comme ça commence avant 16 ans, on va dire que c'est juvénile. Et voilà, on est dans un ensemble extrêmement hétérogène et mal défini finalement. Alors on a des situations simples. Bon, typiquement, la forme la plus fréquente, c'est l'arthrite de l'enfant jeune, de la petite fille surtout, qui commence avant 6 ans, qui touche généralement, mais pas toujours, un nombre limité d'articulations. Et bon, qu'on a un gamin ou une gamine qui arrive avec plusieurs semaines de gros genoux, a fortiori si on a eu deux, sans fièvre, on ne va pas forcément lui imposer le circuit d'éliminer une infection. On a un tableau qui là est assez évocateur d'un tableau inflammatoire, il y a le débrouillage matériel mais non infectieux. Et là, au fond, c'est assez simple, ce sont les médicaments avant tout qui vont agir, et ce sera les anti-inflammatoires à des doses doubles de celles du Vidal, ce sera l'infiltration par corticoïde d'un genou, et un peu de kiné derrière s'il y a eu des mauvaises positions prises, et généralement c'est assez simple. À l'autre extrême du spectre, on a des tableaux bien définis chez l'enfant plus grand, et c'est vrai qu'on a une adolescente avec un vrai tableau de polyarthrite rhumatoïde de type adulte ou un tableau proche. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on était dans le temps dans une notion d'approche thérapeutique avec ses limites, et aujourd'hui, ces limites ont été un peu repoussées. Je m'explique, dans le temps, devant ces arthrites un peu sévères, on ne pouvait pas être parfaitement efficace rapidement. On donnait des traitements qui, pendant de longues semaines ou de longs mois, n'avaient qu'une efficacité partielle, à commencer par le bon vieux méthotrexate qu'on utilise encore, qui met 3 mois à agir pleinement, et des anti-inflammatoires ou des corticoïdes, souvent très insuffisants sur l'inflammation articulaire. Donc ces patients s'étaient habitués à souffrir un certain temps, et finalement, on se contentait d'un contrôle partiel de la maladie et de la douleur. Aujourd'hui, et les familles le savent, et sont aussi plus exigeantes eu égard à cela, il y a des moyens plus puissants, il y a ce qui a été évoqué par Marine, des traitements biologiques en particulier, qui sont rapidement et très efficaces sur l'inflammation. Donc ce qui est un peu attendu de nous, et ce que nous visons nous aussi, c'est quand même d'être très rapidement actifs sur le contrôle de la maladie et le contrôle de la douleur. Je pense que parfois c'est à bon escient, je pense que même d'un point de vue prise de risque et médico-économique, on est parfois gagnant à taper vite et fort, c'est ce que font de plus en plus les rhumatologues d'adultes, et donc chez ce type d'enfant, on ne va peut-être pas forcément commencer par bricoler avec des petits traitements pendant des semaines et des mois, on va peut-être d'emblée, si les critères de gravité sont là, se dire le meilleur traitement de la maladie et donc de la douleur, c'est mettre d'emblée un traitement certes coûteux, certes relativement récent, mais dont on sait qu'il est très actif et très rapidement. On va contrôler la douleur rapidement et peut-être qu'on pourra ensuite faire une décroissance thérapeutique et donc avoir une exposition au risque liée à ces traitements plus faible que si on avait tardé à le mettre et que la maladie avait déjà diffusé. Bien sûr, dans ces tableaux-là, ce ne sont pas que les médicaments, c'est tout le reste, c'est la prise en charge fonctionnelle, c'est l'adaptation de la vie de l'enfant avec les certificats utiles pour l'école, c'est souvent aussi un soutien psychologique et d'autres mesures. Il y a des situations qui peuvent être simples à condition d'avoir le diagnostic. Ça rejoint un petit peu ce qui a été dit précédemment. J'avais été appelé en orthopédie. J'aime beaucoup les orthopédistes, on travaille beaucoup ensemble. Ils font d'excellents examens cliniques, mais parfois, ils omettent un bon interrogatoire médical. Et là, c'était vraiment la situation. C'était un enfant petit, on m'a appelé avant d'intervenir une deuxième fois sur une arthrite du coude. Il avait été hospitalisé pour une arthrite du coude, un gros coude très inflammatoire, très gonflé, très douloureux. Il avait de la fièvre, il avait une biologie extrêmement inflammatoire, 200 de CRP. Et donc, il avait été ponctionné, il y avait eu plein de recherches bactériennes toutes négatives. Mis sous antibiothérapie, ça ne changeait rien. L'enfant restait avec ce gros coude douloureux inflammatoire, un peu moins de fièvre, mais toujours une CRP très élevée. Et on se dit, bon, quand même, avant d'intervenir une deuxième fois, on va demander au pédiatre rhumatologue de jeter un coup d'œil, voir s'il n'a pas une idée. Et quand on demande aux parents un petit peu les choses classiques, l'interrogatoire d'externe, ce sont des parents cousins germains, juifs séfarades. Le gamin, en fait, il avait déjà plusieurs crises douloureuses qui ont touché les articulations, l'abdomen, parfois les bourses. Et le médecin généraliste a dit, ça doit être une maladie génétique, ça doit être une fièvre méditerranéenne familiale, je fais la recherche génétique. Les parents m'ont dit, oui, notre médecin a demandé cette recherche, quand j'ai commencé à évoquer ce nom. Et alors j'appelle le médecin généraliste, et oui, je viens d'avoir les résultats. Oui, il avait les deux mutations attendues, il avait un diagnostic. En fait, il était ignoré, ce diagnostic, mais ce diagnostic était déjà sur le papier. Et là, du coup, on pouvait arrêter les antibiotiques. C'est un peu effrayé mes collègues orthopédistes quand j'aurais dit ça. On fait une injection d'un médicament qu'ils considèrent comme un immunosuppresseur, un anti-L1. En quelques heures, il n'y a plus de fièvre. En quelques jours, il n'y a plus d'arthrite. Et ensuite, on le met sous colchicine pour éviter que les crises ne reprennent. Donc ça, c'est la belle histoire qu'on a un diagnostic assez simple qui finalement repose d'abord sur un interrogatoire. Bien sûr, il y a beaucoup d'autres situations beaucoup moins simples et c'est plutôt l'objet de notre réunion aujourd'hui. Et je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Marine Desjonquière. Le cauchemar pour nous, ce sont ces tableaux de spondylarthropathie au sens très large où il y a très souvent une intrication d'une vraie douleur organique et puis de phénomènes non organiques. Alors, il y a parfois quelque chose qui est un peu déroutant pour nous, c'est qu'on a beaucoup d'adolescents qui, en fait, quand ils viennent nous voir, ont eu un tableau qui a duré depuis longtemps et se sont vraiment habitués à avoir mal, ont pris sur eux. Et typiquement, c'est l'adolescent, on le voit, il a été mis sous anti-inflammatoire, il y a un peu de kiné qui a été mise en place. Il y a probablement eu un effet positif, mais partiel de ces mesures. Quand on le revoit, on dit « Comment ça va ?» Ça va bien, docteur. Bon, si je te demande de te coter entre 0 et 10 sur ta douleur sur les 8 derniers jours, tu dirais combien ? 7, docteur. 7, c'est beaucoup 7, vraiment, oui. Et tu es allé à l'école régulièrement, j'essaye, il y a des jours où j'ai dû manquer, les parents disent, globalement, il a loupé 4 semaines sur le trimestre, alors que c'est un gamin volontaire qui a envie d'aller à l'école, que ça emmerde de ne pas y aller, qu'il faisait du sport, qu'on ne fait plus. Et donc, on a des fois cette difficulté qui est un peu l'opposé du tableau fibromyalgique, entre guillemets, qu'a évoqué Marine, de gamins qui se sont habitués, ne vont même pas dire qu'ils vont avoir mal. Donc il faut aller chercher ça, et Hervé Lefebvre vous parlera de cet après-midi de l'intérêt de score, parfois très simple, comme cette cotation sur 0 à 10 de la douleur, mais il y a des choses plus élaborées pour pouvoir vraiment repérer qu'il y a une vraie douleur, qu'elle mérite d'être traitée, que ce qu'on fait est insuffisant et qu'il faut faire plus. Après, on arrive au beaucoup plus complexe, et là il y a différentes situations auxquelles nous sommes exposés. Il y a les patients qui ont des maladies avec une atteinte systémique qui en elle-même peut être très douloureuse. Il y a la douleur de l'arthrite, qui d'ailleurs est une très méchante arthrite dans nos maladies de style, dans nos formes systémiques, c'est la plus érosive. Si on ne traite pas bien le gamin, il a abîmé ses articulations sur les simples radios au bout de 2 ans dans la moitié des cas, au bout de 5 ans dans les 3/4 des cas, c'est-à-dire qu'on a des pincements articulaires, des géodes, enfin des trucs qui montrent qu'il a déjà des lésions constituées. Mais à côté de ça, il y a des douleurs intenses liées au pic de fièvre, à des myalgies, des épanchements péricardiques, des épanchements abdominaux qu'on ne voit pas mais qui font mal, des gamins qui sont globalement douloureux. Je reviendrai un peu sur les spondylarthrites avec des exemples cliniques. Et puis, on a bien sûr tout le problème des douleurs intriquées, soit intriquées parce qu'il y a une association de douleurs inflammatoires et mécaniques dans l'histoire un peu vieillie. Ça, on le voit de moins en moins. Parce qu'on est quand même maintenant dans des circuits qui fonctionnent mieux pour que les patients soient référés plus vite vers des centres où on peut les traiter, et aussi parce qu'on a des traitements plus puissants. Donc on a moins chez l'enfant qu'on a encore chez l'adulte de patients qui ont vraiment tellement abîmé leurs articulations qu'il y a des douleurs mécaniques qui prennent le pas sur les douleurs inflammatoires. Mais ça existe quand même encore. Et après, le plus difficile, c'est bien sûr l'intrication organique et psychique. Et là, le pire du pire, ce qui a été évoqué, c'est quand il y a un vrai dysfonctionnement familial. À la limite, l'adolescente hyper perfectionniste, hyper bon élève qui arrive avec un tableau caricatural de douleur dont on sent bien qu'il y a une forte composante psychique, mais avec des parents pour qui il y a une certaine empathie autour du cas de l'enfant, qui comprennent, eux, que le problème de l'enfant n'est pas purement organique, qu'on peut faire un travail différent, je dirais que ça va généralement bien se passer. Par contre, la famille qui est persuadée que c'est une enfant qui a un problème organique, que les médecins ne le reconnaissent pas, et que d'ailleurs ce problème organique apporte des bénéfices secondaires, comme ça a été un peu évoqué, qu'on s'est installé dans le handicap, le dossier MDPH et tout le reste, oh là là, qu'est-ce que c'est difficile. Là, on part vraiment sur des situations où on doit vraiment faire beaucoup d'efforts pour progressivement alléger un petit peu la médicalisation et essayer de mettre l'adolescent un petit peu à l'écart des parents. On a évoqué les centres de moyen séjour. Chez les ados, on s'aide aussi de la maison de Solène pour arriver un peu à permettre à l'ado de s'exprimer sans les parents et puis faire la part des choses et voir où sont vraiment les nœuds qui sont à l'origine de ces tableaux d'allure organique. Alors, ce qui nous pose de grandes difficultés dans ce qui est le motif le plus fréquent d'examen peut-être excessif ce sont ces spondylarthrites au sens large de l'enfant, comme chez l'adulte. D'abord, chez l'enfant, on a rarement au début les atteintes typiques de la maladie. Dans 85% des cas, au début, on n'a pas du tout l'atteinte typique du rachis, des sacroiliaques. On a des choses moins bien définies. Alors parfois, il y a de l'arthrite qui se voit, ça nous aide. On a un gros genou, un gros orteil, d'accord. Mais parfois, on a des douleurs, surtout au niveau des enthèses. On retrouve des douleurs en palpant les tendons d'Achille, les tendons rotuliens, des régions un peu proches de celles qu'on pourrait réveiller dans une fibromyalgie, entre guillemets. Et de surcroît, on sait, et la médecine adulte nous le montre bien, que le fait d'avoir d'authentiques douleurs organiques n'empêche pas qu'on puisse aussi greffer là-dessus toute une problématique d'un adolescent qui a une souffrance à exprimer et qui du coup va focaliser aussi ses problèmes là-dessus. Donc ça peut être très difficile. Et en plus, les traitements dont nous disposons marchent de façon inconstante. Les anti-inflammatoires, qui restent des très bons traitements dans la moitié des cas, ne marchent pas bien dans la moitié des cas de ces patients qui ont des douleurs enthésitiques et autres. Donc on est vraiment bien embêté pour répondre à leur souffrance. Alors je vous donne deux cas cliniques, je crois. Il y en a une qui était vraiment la présentation au départ un peu caricaturale de l'adolescent dans un tableau, un peu comme ce qu'a décrit Marine, hein, de maman fibromyalgique, mais qui avait quand même cette maman, ce qui est un peu intéressant, une uvéite antérieure aiguë récidivante. Donc elle avait un fond organique, comme on le voit dans les authentiques spondylarthrites. Et elle, elle a des douleurs qui sont surtout enthésitiques et articulaires périphériques, mais sans arthrite vraie, enfin sans arthrite constituée cliniquement depuis un an. Un examen clinique normal, et elle a eu déjà quelques examens, c'est pas le pire, mais on a quand même eu quelques-uns, qui étaient négatifs, mais qui, je le reconnais, ne veulent pas forcément dire grand-chose, puisque dans d'authentiques spondylarthrites, ces examens peuvent être négatifs. Elle a même eu, la pauvre, la sérologie de Lyme, parce que c'est la grande mode, bien que ça ne soit pas du tout à l'origine de tableaux de ce type. On la revoit 3 mois plus tard. Alors là, c'est le tableau clinique typique qui nous inquiète. Cette fois, en gros, on la voit debout la première fois, assise la deuxième, allongée la troisième. Là, vraiment, ça ne va pas. Elle revient en fauteuil. Elle a un tableau qui a inchangé, des douleurs qu'elle cote en permanence à 7 et 8 sur 10. Et ça, Hervé vous le dira aussi, c'est très suspect quand il n'y a aucune fluctuation des douleurs. Quand l'ado se cote en permanence 7, 8, 9 ou 10 de douleurs, que ça ne bouge jamais, là, c'est très suspect. C'est qu'il y a probablement une composante non organique derrière. On n'a rien de très convaincant sur le plan des examens. Elle est déscolarisée depuis 6 mois du fait du douleur et du handicap fonctionnel. Là aussi, c'est pas normal. Même les gamins douloureux qu'on a, je rejoins ce qu'a dit Marine, les gamins avec des arthrites, même les plus sévères, ils essayent d'aller à l'école, on trouve des aménagements, ils vont à l'école. Ils manquent parfois, mais ils y vont. Alors là, qu'est-ce qu'on va proposer? On va proposer tout ce qui a été évoqué par Marine. C'est-à-dire que c'est avant tout une approche multidisciplinaire, plusieurs spécialistes qui se croisent, la médecine fonctionnelle, la prise en charge pédopsychiatrique, toutes les techniques les moins agressives possibles depuis les petits moyens comme le TENS jusqu'à des moyens plus lourds et on explique aux parents et à l'enfant que c'est vraiment combiner un ensemble de choses et accepter que ce n'est pas une seule réponse qui va apporter la solution mais de combiner plusieurs réponses médicamenteuses et non médicamenteuses qui va permettre de façon progressive sur des années une amélioration et on tient un discours, enfin je tiens en tout cas un discours résolument optimiste, c'est-à-dire que mon discours c'est que le pronostic est bon, que ces adolescentes vont guérir et que simplement c'est une question de temps et d'y croire et d'y mettre ce qu'il faut. Et en général, d'ailleurs, c'est ce qui se passe. En général, quand même, il y a des améliorations lentes, progressives, sauf quand la phase famille dysfonctionne tellement profondément qu'il y a des choses ancrées où on a vraiment beaucoup de mal. Alors, il y a quand même des adaptations acceptées avec le milieu scolaire et on fait quand même très facilement des certificats qui, je pense, peuvent être utiles, le double jeu de livres, le tiers-temps pour les examens, l'ordinateur à l'école, l'accès aux ascenseurs quand l'escalier est trop difficile. Ça, on le fait facilement. Autant on est réfractaire à des mesures d'éloignement de l'école, autant on accepte quand même dans une certaine mesure de faire ce qu'on peut. Alors on essaie de limiter des choses qui sont vraiment délétères comme le fauteuil. Un gamin qui peut marcher, même s'il a mal, il ne faut surtout pas le mettre dans un fauteuil. C'est une catastrophe, il prend des positions vicieuses, il s'amyotrophie, ils prennent l'habitude aussi du confort, mais d'un mauvais confort qu'offre le fauteuil. On préfère même des trucs de type draisienne, vous savez, ces vélos sans pédales ou autres, pour au moins lui maintenir une activité fonctionnelle qui bouge, même si ça lui fait un peu mal d'appuyer sur ses jambes. On fait des activités dans l'eau, enfin on essaie vraiment de faire tout ce qu'on peut pour, comme l'a dit Marine, que l'enfant bouge, qui ne s'immobilise pas avec le cercle vicieux que ça crée. Alors cette gamine, et c'est pour ça que c'est intéressant, ça a été vraiment mieux avec cette prise en charge multidisciplinaire, c'est même un succès au-delà de ce qu'on observe habituellement dans le contexte. Et puis cependant, elle revient de voir parce qu'elle commence à avoir des douleurs qui là sont vraiment d'horaire inflammatoire, et on a quand même des douleurs là qui nous paraissent plus organiques, on est un petit peu embêté, est-ce qu'il faut refaire des examens complémentaires? Ben on s'est dit que oui, et puis là, il y a des petites choses quand même qui commencent à nous embêter. Une biologie qui est un petit peu inflammatoire, une atteinte inflammatoire objective sur une IRM au niveau d'une sacroiliaque. Et là, on passe sur un autre créneau. Et c'est toute la difficulté, c'est qu'un même enfant peut avoir une intrication des deux. Et cette adolescente, finalement, dans ce deuxième temps, elle a été améliorée par une approche beaucoup plus organiste, avec des anti-TNF, avec des anti-inflammatoires. Et donc, on a pu lui offrir l'approche Peyrich, l'approche la plus moderne. Et avec ça, tout en maintenant le reste, en maintenant la kiné, le TENS, le soutien psy, elle a été pas mal. Alors, je change de sujet, juste pour vous dire un mot de ces enfants qui se présentent des fois extrêmement douloureux, avec un vrai problème pour nous, c'est que On a tellement de difficultés à arriver au diagnostic qu'ils souffrent trop longtemps avant qu'on commence à vraiment contrôler leur douleur. Et typiquement, ces enfants qui ont une maladie de Still, une forme systémique d'arthrite juvénile idiopathique, stricto sensu avec les critères actuels, on doit éliminer tous les diagnostics différentiels. Donc le pédiatre qui l'hospitalise voit ce gamin qui a des pics de fièvre tous les jours. Lors des pics de fièvre, il a super mal. Il a la péricardie, des douleurs thoraciques, des douleurs articulaires. Des fois, comme l'enfant dont je vous ai mis une photo en haut au milieu, des sortes de coulées inflammatoires musculaires, mais extrêmement douloureuses. Des arthrites qui s'installent. Le diagnostic est assez clair. N'empêche que théoriquement, il faut au moins 6 semaines d'évolution pour pouvoir retenir le diagnostic. Et pendant ce temps, on va faire plein d'examens dont certains sont inutiles. Et le gamin n'aura juste que des anti-inflammatoires ou un peu d'aspirine. Donc ça, c'est quand même pénible. Et c'est vrai que dans les vieux bouquins encore, on peut voir que c'est au moins 4 semaines d'aspirine ou anti-inflammatoire avant de faire autre chose, sauf critère de gravité. Donc ça, ça a été un peu modifié dans les bouquins plus récents et dans les articles. Aujourd'hui, on peut certes, dans les formes pas trop douloureuses, tester un anti-inflammatoire puissant, on teste l'indométacine en général, mais on se donne quelques jours. Si ça n'améliore pas franchement l'enfant, il faut faire autre chose. Autre chose, ça peut être encore des corticoïdes dans certains cas, et de plus en plus, là encore, dans une approche moderne, mais à condition qu'il y ait un avis d'expert, on peut réfléchir, c'est encore hors AMM, c'est encore expérimental, c'est à bien expliquer aux parents. On peut quand même, de temps en temps, réfléchir à introduire un traitement puissant qui, des fois, peut, comme dans le cas de la FMF, la fièvre migraine familiale dont je vous ai parlé, en quelques heures améliorer un enfant et transformer radicalement sa douleur. De même que la chimio est le meilleur traitement de la douleur du cancer, nos traitements ciblés sont le meilleur traitement de la douleur de nos pathologies inflammatoires rhumatologiques. Le doliprane, les morphiniques marchent très mal. Et après, on a le problème, bien sûr, je l'évoque rapidement sur une diapo, des arthrites évoluées. On l'a un peu moins que chez l'adulte, mais on a néanmoins quand même quelques enfants qui ont des arthrites très évoluées, qu'on les voit, on a l'impression qu'ils ont détruit leurs arthrites, qu'ils n'ont plus d'inflammation active. Malgré tout, il faut se méfier. J'ai souvenir d'un jeune jardinier de 17 ans qui avait une maladie de Still, qui avait détruit presque toutes ses articulations. Il vivait en ayant dû arrêter, enfin, il faisait une formation de jardinier en fait, il n'était pas encore jardinier, il avait dû arrêter cette formation parce qu'il avait 4 heures de dérouillage matinal. Pendant 4 heures, il ne pouvait pas bouger du tout. Il a testé un traitement anti-L1, c'est un des premiers à le recevoir, il était super heureux, il n'avait plus que 3 quarts d'heure de dérouillage matinal. 3 quarts d'heure, c'est pas rien, mais il pouvait recommencer à travailler dans son jardin, à faire sa formation, il était content. À côté de ça, bien sûr, ça ne suffit pas. Une fois qu'on a détruit ses articulations, eh bien, il faut des antalgiques autres, il faut maintenir la kiné, la balnéo, il faut des mesures de protection des articulations, et il faut parfois la chirurgie. Et on sait, notamment lorsqu'on détruit une hanche, que la seule solution in fine pour soulager la douleur, c'est de mettre une prothèse de hanche qui va permettre à ces patients de vivre correctement. Et bien sûr, là encore, on s'aide de toutes les mesures accompagnantes. Donc en conclusion, on est devant des situations douloureuses qui sont complexes parce qu'elles sont intriquées. Le psychique est souvent présent même dans des douleurs authentiquement organiques et inversement sur des douleurs qui peuvent d'abord de présentation très psychique, on peut avoir de l'organique qui dort, qui va se réveiller à un moment. Donc on doit toujours être vigilant et ce qui a été dit avant est tout à fait vrai, réévaluer encore à intervalles, toujours se reposer les questions de base. Il faut une approche multidisciplinaire. On essaye de plus en plus aussi d'adapter l'approche à la situation de l'enfant à son âge. Et là, tout ce qui se développe pour l'adolescent me semble extrêmement important et pour une transition réussie. On se fait aider des associations de familles, même si dans les associations, on fait un petit peu attention, on prévient les parents. Certaines familles très actives dans les associations sont des familles un petit peu médecine parallèle, un petit peu installées dans la douleur. Donc il faut aussi peser un petit peu la façon dont on se fait aider par les associatifs. Mais néanmoins, il faut être dans l'interaction avec eux. Et puis, on espère développer plus de programmes spécifiques pour la douleur en lien avec les équipes douleur et pédopsychiatriques, entre autres de Necker, notamment dans le cadre d'un programme d'éducation thérapeutique pour l'arthrite juvénile. Je vous remercie.